Waouh, quel mois de septembre. Il n'y a qu'une bonne nouvelle, c'est qu'il se termine. Hein. Parce que là, il fallait qu'il se termine. Alors, je vous rappelle qu'historiquement, hein, dans l'histoire des marchés boursiers, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le mois d'octobre qui est le plus mauvais mois de l'année, c'est le mois de septembre. En octobre, il y a des cracks, mais en septembre, c'est la plus mauvaise performance. Bon, ben là, on y est. Hein. Allez, je vous fais un prix commun. On est à 8%.
Entre 8%, octobre arrive.
Entre 8 et 10% de baisse à peu près partout. Et depuis le début de l'année, ben, on est entre 20 et 31% de baisse sur le Nasdaq, 20% sur le CAC, 31% sur le Nasdaq. C'est quand même... Alors, j'entends ce que disait Romain, et je vais lui passer la parole tout de suite, qui me disait, bah, oui, non, mais finalement, par rapport à tout ce qui se passe, c'est une baisse qui est quand même contenue. Oui, c'est vrai, c'est une baisse qui est contenue, mais c'est une baisse qui est quand même brutale. 31% sur le Nasdaq, qui a été le marché phare des années précédentes. Alors, vous allez me dire, c'est parce que c'était le marché phare des années précédentes qui baisse, et donc que cette baisse, j'entends. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est à ce point que les marchés, les investisseurs appellent, ou les gérants, la capitulation, c'est-à-dire le moment où on a paniqué, et qui est le moment du plus bas, finalement? Est-ce que c'est en septembre? Tout à l'heure, vous sembliez nous dire, non, attention, moi, je crois qu'il y a encore des risques.
Il y a forcément des risques. Hein. Il y a toujours des risques sur tous les marchés financiers depuis toujours. Et ce n'est pas parce qu'il y a des risques qu'il faut payer. Mais est-ce qu'on n'est certainement pas dans une capitulation? Une capitulation, c'est que les gens abandonnent tout espoir. Donc il y a des vendeurs forcés, il y a des faillites, il y a des vendeurs forcés. Et là, le marché capitule. Et là, le...
On a des capitulations sur des segments. C'est-à-dire ce qu'on appelle cette tech un peu
pourrie. Oui, bien sûr. Sur la bulle de tech, effectivement, des valorisations.
Dans la tech, la bonne tech et la mauvaise, comme le cholestérol.
Et puis on les reconnaît plus facilement une fois que les cours de la mauvaise ont baissé. Parce que moi, on peut les... Mais il n'y a pas encore eu de... Mais dans toutes les phases de cycle financier, il y a parfois des choses qui tout d'un coup accélèrent. Vous avez vu la faillite de LTCM, qui était un énorme hedge fund, et des premiers hedge funds dans les années 90. Vous avez eu pendant la bulle Internet, les problèmes de maquillage des comptes d'énormes sociétés qui étaient sous des vedettes comme Enron et compagnie.
Donc là, vous dites, on n'a pas eu notre Enron, on n'a pas eu notre Lehman, on n'a pas eu notre Evergrande.
J'entends Emmanuel, il dit oui, il y a des chocs, et puis chaque fois on réagit aux chocs qui sont les mêmes. Chocs et compagnie, il peut y avoir d'autres chocs. Et c'est vrai, dans une économie endettée, on ne sait pas forcément où sont les risques. On ne sait pas si les risques sont dans des fonds de dette, sont dans des hedge funds, sont dans des particuliers qui ont fait jouer l'effet de levier, encouragés par leur banque pour avoir un peu plus de commission, en disant, vous voyez, quand on lit les journaux financiers comme le Financial Times, on s'aperçoit qu'à Londres, les gens qui achètent des immeubles ou des habitations à 50 millions de livres, ils le financent essentiellement par de la dette, parce qu'ils mettent leur actif en dépôt, parce qu'ils sont tellement habitués à ce que ça monte et à ce que tout va bien que finalement le levier c'est ce qui a fait rendu des gens riches, et les gens ont du mal à renoncer à ce levier. Donc ils vont être parfois, on peut être dans des situations où à cause de la hausse des taux d'intérêt, à cause de l'insuffisance de prêteurs, hein, des gens qui sont très sains, les grandes entreprises comme LVMH, comme L'Oréal, n'auront aucun problème pour s'endetter s'ils le voulaient, parce qu'ils n'ont pas de dette. Mais les sociétés qui sont déjà très endettées parce qu'elles ont fait de la croissance externe un peu éventuellement à contre-cycle, peuvent avoir plus de difficultés. Et on voit que les gens qui ne sont pas investment grade payent aujourd'hui 6,5% de plus que les taux de gens qui sont investment grade. Donc on est dans un climat où effectivement les taux se resserrent, et donc tout risque supplémentaire...
Jeu de mots.
Involontaire, tout risque supplémentaire se...
Et c'est vrai que le risque, attendez, excusez-moi, mais quand on vous écoute, le risque que vous soulignez, c'est pas plusieurs risques, c'est le risque de surendettement.
C'est le risque de levier. Dans toutes les crises, il y a toujours du surendettement.
D'accord. La perception que j'ai de l'extérieur, mais qui est probablement fausse, c'est que la situation des entreprises, à part des secteurs vraiment particuliers qui se sont financés avec des levées de fonds ou du surendettement, est relativement saine. Je me trompe?
Oui, non, vous ne trompez pas. La plupart des grandes entreprises européennes sont bien financées.
Et même internationales, non? Quand on regarde les gros de la tech américaine, ils sont tous cash rich.
Oui. C'est plus du côté investisseur éventuellement à trouver. Mais chaque fois, on ne sait pas. C'est très opaque. Autant vous connaissez le bilan de L'Oréal, vous connaissez aussi le bilan de sociétés plus endettées. Hein. Il y en a des sociétés plus endettées chez nous qui ont effectivement beaucoup chuté.
Par exemple,
Les maisons de retraite, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui sont ajoutées.
Ça, c'est de la capitulation.
Sur la maison de retraite.
Pour le coup.
Mais si elles n'avaient pas été endettées à la base, elles n'auraient pas baissé autant. Hein, ou des acteurs qui ont fait de la croissance externe payés essentiellement par la dette comme Veolia, est une société assez endettée. Hein, je ne dis pas qu'elle est, mais que son cours en prenne compte aujourd'hui, c'est normal. Hein, ça fait partie.
Donc là, vous dites, en fait, sur les entreprises, il y a une certaine transparence. Il y a une partie des entreprises.
Sur les grosses, hein.
Sur les grosses, il y a une certaine transparence.
C'est pas la même chanson.
Non, mid-cap aussi, tout ce qui est coté, on voit bien. Mais vous dites, globalement, ce qu'on ne sait pas, c'est d'abord ce qui se passe sur le non-coté, puis ce qu'on ne sait pas non plus, c'est ce qui se passe du côté des fonds, puisqu'il y a eu beaucoup de hedge funds qui ont joué
le jeu. Ou des gens fortunés qui peuvent être endettés à titre personnel, gagés sur des valorisations qui sont. Voilà, les valorisations du private equity, par exemple, n'ont quasiment pas baissé.
Donc c'est amusant parce que en fait, je fais le parallèle avec les subprimes où là c'était le surendettement des couches sociales les plus défavorisées. Là vous dites c'est peut-être le surendettement des riches qui va nous faire sauter la planète.
Il y a une bonne habitude.
Le private equity.
Où vont les marchés, Léa?
Oui, alors, un point juste sur le private equity, c'est intéressant parce que c'est un peu vos licornes, vos chimères licornes, on ne sait pas trop comment les appeler parce qu'effectivement, là, il va y avoir des véritables sujets.
Alors, Grégoire Santil était là la semaine dernière, le patron de NextEdge. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une action à me conseiller puisque à la fin, je demande au gérant. Et il me dit, non, pas d'action cotée, je ne fais plus que du private equity. Parce qu'il dit il y a moins de danger.
Je serais moins.
Bah, allez-y, répondez. C'est le moment où vous étiez en accusation.
D'abord, pour une simple raison, il n'y a pas de valorisation quotidienne. Donc le choc, il arrive quand effectivement les problèmes sont d'un point de vue économique réellement arrivés. Mais tant qu'on ne les voit pas, malheureusement, ça ne se price pas. Et moi, je suis très, très, très dubitatif. Sur la dette, je voudrais juste revenir sur les entreprises. Effectivement, il y a trois catégories d'entreprises et où vont les marchés, ça va me permettre d'y répondre. Il y a les entreprises qui ne sont pas endettées. Et effectivement, il y en a beaucoup en fait. En réalité, c'est ce qui fait que le marché de ce point de vue-là peut se tenir. Il y a celles qui se sont endettées il y a 6 mois, 1 an, intelligemment d'ailleurs. Ouais. Et celles-ci, elles sont très intéressantes. Et puis, il y a celles qui.
Parce qu'elles se sont endettées à des taux fixes, à des bons niveaux.
Exactement. Okay. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Beaucoup qui l'ont fait. Et puis, enfin, celles qui malheureusement ont des business où elles doivent s'endetter. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la partie maintenant réaction sur les BPA, les bénéfices par action. Parce qu'en fait, on a eu une vague de hausse des tarifs dans à peu près tous les secteurs. Les hausses de prix ont été passées partout sans difficulté. On a craint sur les marges. Finalement, les marges se sont tenues. Donc là, aujourd'hui, on arrive à un stade où c'est la demande qui va être pénalisée. Et vous disiez, les entreprises vont bien. Elles nous l'ont toutes dit, même encore au premier semestre, les résultats étaient plutôt bons. Et là, entre le premier semestre et les résultats qui vont commencer à arriver, le discours commence à se
faire. J'ai pas dit qu'elles allaient bien. J'ai dit que leur situation financière était plus saine que celle qu'on a pu connaître dans les autres crises. Mais je suis d'accord avec vous. J'ai aussi des contacts avec des entrepreneurs. Ça fait 2 mois qu'ils me disent que
ça
s'est arrêté, sauf certains secteurs comme les ESN, transformation digitale où là ça continue
exactement
à cartonner.
Et alors juste peut-être là-dessus pour terminer,
bien sûr.
Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces cas-là? C'est finalement quel est le niveau de BPA qu'on devrait atteindre pour pricer
bénéfice par action BPA.
Voilà, exactement, pour pricer auprès des entreprises une récession qu'elles vont prendre de plein fouet. Eh ben, il y a encore quasiment 15% de baisse.
D'accord, super. La situation
des bénéfices par action.
Oui, pardon.
Si c'est ça, c'est pas grand chose. Hein,
sauf que les anticipations aujourd'hui, malheureusement, font que vous aurez à peu près la.
Allons jusqu'au bout. 15% de bénéfices par action, de baisse des bénéfices par action, c'est combien de baisse sur les marchés, Romain Burnand?
C'est très compliqué à dire parce que les sociétés qui ne risquent pas, sur lesquelles il n'y a pas d'anticipation de baisse de résultats, sont des sociétés qui sont encore extrêmement chères. Mmh. Vous voyez, des sociétés très, très bien gérées, sans dette, comme L'Oréal, elles se payent à 30 fois les résultats de l'année.
D'accord.
Et donc, il n'y a pas besoin de baisse des résultats pour qu'elles baissent, il y aura besoin d'un ralentissement de la croissance des résultats. Vous voyez, pareil pour les acteurs du luxe, c'est pareil pour des gens comme Dassault Systèmes qui sont des boîtes bien gérées, récurrentes. Donc là, vous avez un marché à deux mondes. Donc il y a les sociétés qui sont censées échapper à la crise, puis ceux qui sont dedans, comme les banques, les automobiles. Leurs résultats sont très bons actuellement, mais on sait par expérience que ce sont des secteurs cycliques comme la construction, et donc là les prix sont vraiment à la ramasse totale. Donc on n'a jamais vu un écart de valorisation aussi élevé entre ces deux familles d'acteurs. Et donc c'est vrai, quand vous parlez, s'il y a 15% de baisse de résultats sur les banques européennes, c'est tout du bonheur. Parce que leur cours de bourse, il attend pratiquement 30-40% de baisse des résultats, si vous voulez, implicitement, hein, pour revenir à un niveau qui soit un niveau normal. Si on a 15% de baisse des résultats sur LVMH, c'est l'affolement dans les gens qui ont cette valeur, parce qu'elle est aujourd'hui, c'est considéré comme une valeur refuge.
Donc vous nous dites d'en sortir?
Je dis, c'est un risque que je ne prends pas.
C'est un risque que vous prenez. Vous n'avez pas de LVMH, de L'Oréal, de choses.
Oui.
D'accord, c'est important quand même ce que vous dites. Parce que
je me trompe souvent.
Non, mais comme tout le monde. Hein. Anna, la situation et l'endettement des entreprises, ça c'est un sujet auquel je n'avais pas pensé. Mais voilà une nouvelle angoisse pour ce week-end.
On a connu des nouveaux records cette année. Et pour certains, oui, on a anticipé la hausse des taux. Pour d'autres, on a juste financé le cycle d'exploitation qui a coûté extrêmement cher quand on regarde les besoins de fonds de roulement entre les stocks qu'on a refait comme des malades à des prix du jamais vu, entre l'inflation qui a pesé sur les délais de paiement parce qu'ils se sont raccourcis, parce qu'en période d'inflation, on demande à être payé plus vite pour pouvoir faire autre chose avec cet argent. Et donc, on a eu quand même ces besoins de liquidité. Après, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de cash. En Europe, on a 33% de plus qu'en 2019. Aux États-Unis, 60% de plus.
Les entreprises, vous dites.
Les entreprises, mais c'est très centralisé sur des grandes entreprises. Donc, le risque est avec les PME. Et aujourd'hui, chez Allianz Trade, ce qu'on voit, c'est que la défaillance et les sinistres arrivent des PME. Donc, c'est une question de fréquence, du nombre de ces petites entreprises qui sont peut-être moins soutenues par la demande, par le cash.
Et ça, on en a parlé un peu pendant la crise Covid. On parlait des entreprises ici même, on parlait des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qu'on a aidé à survivre alors qu'elles auraient dû tomber au moment du Covid. Et là, elles sont en train de tomber. Bon, finalement, on rattrape le retard. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'en 2021, c'était le nombre record de défaillances d'entreprises à la baisse, c'est-à-dire qu'on n'en avait jamais eu aussi peu. Et c'était totalement artificiel, en fait. On les a soutenus artificiellement.
Mais on continue à soutenir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans ce triple choc. Choc énergétique, choc de taux quand même, ou de financement, et puis choc de salaire. Et donc, effectivement, on a ces chocs-là qui vont faire que la part de ces entreprises, est-ce qu'on les appelle zombies ou fragiles, mais en tout cas qui vont faire défaut dans les deux années à venir, augmente. Après, en fonction des États, on met plus ou moins d'argent pour en fait tenir ces défaillances sous contrôle. Et si on prend le cas de la France, on aide aussi les entreprises des PME parce que bon, la plupart des entreprises ont 3% de leur chiffre d'affaires dans la facture énergétique et donc il suffit d'afficher un mois de pertes pour être compensé.
Mais là, le choc énergétique, c'est quand même stupéfiant. Nous, on voit défiler les patrons avec leurs nouvelles propositions de contrat. C'est des chiffres hallucinants. C'est-à-dire que c'est des fois 10.
Ouais,
sur le gaz, par exemple, c'est...
Et Emmanuel Macron dit, ne vous précipitez pas pour signer, mais on se demande ce qu'ils peuvent faire d'autre.